Merci d'écouter Radio France Internationale. Midi et demi en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner. Bonjour à toutes et à tous. Au Mali, des négociations sont en cours entre les rebelles du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, et les djihadistes du JNIM. Des opérations conjointes seraient à l'ordre du jour. De nouvelles tensions au Soudan du Sud. Plusieurs proches de l'opposant et vice-président Riek Machar ont été arrêtés hier. Le représentant de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs en visite à Kinshasa une semaine après un déplacement à Kigali. Et puis en Guinée-Bissau, Marou Sissoko Embalo, candidat à sa réélection lors de la présidentielle qu'il a lui-même fixée au 30 novembre. Mais pour l'opposition, son mandat est déjà terminé. Une mission de la CEDEAO censée essayer de mettre tout le monde d'accord a dû plier bagage, menacé d'expulsion par le chef de l'État. Vincent Fouché, chercheur au CNRS et spécialiste de la Guinée-Bissau, est notre invité. Au Mali, des négociations sont donc en cours entre les rebelles du FLA et les djihadistes du JNIM. Le FLA, Front de Libération de l'Azawad, ce sont les rebelles indépendantistes du Nord qui avaient signé en 2015 un accord de paix avec l'État malien et qui ont repris les armes après la rupture de cet accord par le nouveau pouvoir. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, rassemble les groupes djihadistes actifs au Sahel et liés à Al-Qaïda. Les frontières ont toujours été poreuses entre tous ces groupes qui avaient déjà d'ailleurs conclu un pacte de non-agression. Mais cette fois-ci, David Baché, il s'agit d'aller plus loin.
Oui, le FLA et le JNIM combattent déjà, chacun de son côté, le même ennemi commun, l'armée malienne et ses partenaires de Wagner. Les discussions initiées début décembre ne sont pas encore terminées, mais selon plusieurs cadres du FLA, une entente aurait déjà été trouvée pour mener et revendiquer des attaques désormais de manière conjointe dans le nord du Mali. Un état-major commun pourrait même être mis en place. Autre point de négociation avancé, l'installation d'une structure de justice islamique, religieuse mais non radicale selon plusieurs cadres du FLA, dans les régions du Nord, avec des cadis et des marabouts locaux.
Des divergences de fond, toutefois, limitent la portée des discussions.
Oui, certains points constituent des blocages, comme les prises d'otages et les attaques kamikazes du JNIM. Il y a surtout la question des objectifs et des frontières. Le FLA combat pour l'indépendance de l'Azawad, les régions du Nord du Mali, et ne compte pas renoncer à cet objectif sur un territoire bien délimité, alors que le JNIM combat pour imposer la charia dans tout le Mali, mais aussi au Niger, au Burkina et de plus en plus dans les pays côtiers. Or, le JNIM refuse, en tout cas pour le moment, de rompre ses liens avec Al-Qaïda. Cette perspective ne serait toutefois pas exclue sur le long terme. Les négociations sont toujours en cours, mais à ce stade, les points d'accord se limitent donc à la mise en place d'une structure militaire conjointe et d'un mécanisme de justice islamique dans le nord du Mali, ce qui est déjà inédit et qui vient renforcer l'argumentaire des autorités maliennes de transition. Qui qualifie indistinctement rebelles indépendantistes et djihadistes de terroristes.
Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, achève une visite en République démocratique du Congo. Une semaine après ses entretiens à Kigali avec le président rwandais Paul Kagame et son ministre James Kabarebe, le diplomate européen est à Kinshasa. Hier, il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Et ce matin, Patient Ligodi, Johan Borgstam a voulu réexpliquer la position de l'Union européenne sur le conflit qui secoue l'Est du Congo.
L'Union européenne rejette toute accusation de double standard en matière d'agression. C'est le message que Johan Borgstam affirme avoir adressé au président rwandais Paul Kagame lors de leur rencontre. Une réponse aux critiques comparant la position de l'UE face à la guerre en Ukraine et la présence rwandaise en RDC selon les rapports de l'ONU. L'envoyé spécial de l'UE insiste, le respect du droit international doit être une priorité partout dans le monde. Sur la question des sanctions, Bruxelles avance à son rythme. Le 24 février dernier, les États membres, a-t-il dit, ont pris une position politique pour suivre la préparation d'une liste de sanctions individuelles. Désormais, ce sont les juristes européens qui examinent les dossiers pour s'assurer que les accusations sont fondées et conformes au droit européen. Autre sujet sensible, l'accès à l'aéroport de Goma sous le contrôle de l'AFCM-23. Johan Borgstam affirme avoir évoqué cette question avec les autorités rwandaises également. Ni le gouvernement congolais ni la MONUSCO ne contrôlent le site, affirme le diplomate européen. Une situation qui entrave toute opération humanitaire ou logistique vers l'est du pays. Aucune solution aérienne n'est envisageable à ce stade, explique Johan Borgstam. La seule alternative pour rejoindre Goma reste un passage par Nairobi suivi d'un convoi terrestre.
Le Rwanda cible de nouvelles sanctions pour son soutien au M23 après le Royaume-Uni et le Canada. C'est l'Allemagne qui a annoncé hier interrompre ses nouvelles aides à Kigali, Pascal Thibault.
Nous allons suspendre de nouveaux engagements financiers ainsi que des rencontres de haut niveau avec Kigali et revoir la coopération existante avec le Rwanda. Le ministère de la coopération allemand a annoncé sa décision hier dans un communiqué. Berlin condamne l'offensive du groupe M23 et dénonce une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Berlin a informé au préalable Kigali, qui bénéficie d'une aide annuelle de 50 millions d'euros par an de Berlin pour des projets liés au développement économique, à l'énergie, à la protection du climat ou à la production de vaccins. Berlin a, dans ses échanges avec Kigali, demandé à nouveau le retrait des forces armées rwandaises de la RDC et l'arrêt du soutien au M23. Fin janvier, Berlin avait décidé d'annuler des consultations gouvernementales avec le Rwanda. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Au Soudan du Sud, une nouvelle poussée de fièvre entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar. Des proches de ce dernier ont été arrêtés hier. Guillaume Thibault lui-même s'est retrouvé un temps isolé puisque l'armée s'était déployée hier soir autour de sa résidence de Djouba.
Et la tension de la nuit est descendue d'un cran. Selon nos informations, les forces armées ont quitté dans la matinée les abords de la résidence de Riek Machar et le centre-ville de la capitale, alors que vers 2h du matin, un intime du vice-président, le ministre du pétrole, Poat Kang Chol, a été interpellé chez lui. Le brut, principale richesse du pays, représente 90% du budget de l'État. L'arrestation de ce cadre du gouvernement s'ajoute, toujours ce mardi, à celle du numéro 2 de l'armée, le chef d'état-major Gabriel Duoplam, et de deux autres généraux. Ces trois hauts gradés sont tous des proches de Riek Machar. À l'origine de ce regain de tension, la situation qui dégénère depuis mi-février dans le Haut-Nil, au nord du pays, un État bastion de l'opposition, dans lequel l'armée multiplie les opérations avec des affrontements. Encore ce mardi, près de la ville de Nazir, entre les forces armées et des membres de la White Army, une milice alliée à Riek Machar. Il y a 8 jours, dans la même zone, l'armée, qui a été accusée d'avoir bombardé une base tenue par des proches de l'opposant, a évoqué une opération de surveillance aérienne, car elle estime que les forces du vice-président cherchent à bloquer son déploiement dans la région. Autant de troubles qui mettent en jeu l'accord de paix de 2018 qui prévoyait justement la création d'une armée unifié. Jeudi dernier, Riek Machar a sollicité une rencontre avec le président Salva Kiir pour évoquer cette détérioration sécuritaire, une proposition de dialogue, une main tendue qui n'a pas encore été acceptée par le chef de l'État.
Au Soudan voisin, voilà qui ne rassurera pas ceux qui redoutent une partition du pays. Les paramilitaires FSR du général Daglo, alias Emeti, et leurs alliés qui avaient déjà annoncé la création d'un gouvernement parallèle dans les zones qu'ils contrôlent ont signé hier, Ouda Ibrahim, une constitution de transition.
Après la charte fondatrice du Soudan, le gouvernement parallèle qui est en passe d'être formé, voici la nouvelle constitution pour le nouveau Soudan annoncée par les alliés de Nairobi, dont à leur tête Abdelrahman Daglo, le numéro 2 des forces de soutien rapide. Selon une copie du texte qui a fuité dans la presse, la nouvelle constitution de transition garantit la laïcité de l'État, la démocratie et la décentralisation. Elle cherche également à séparer la religion de l'État, mais aussi les identités culturelles, ethniques et régionales, ce qui semble très ambigu. Quant au système de gouvernance, il sera décentralisé au niveau politique, administratif, constitutionnel et financier. À la tête du pays, il y aura une sorte de conseil de ministres présidentiel, alors que le Soudan sera divisé en 8 régions, stipule le texte. Concernant la transition, elle sera divisée en 2 périodes. La première s'étendra jusqu'à l'annonce officielle de la fin de la guerre, indique le texte.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a publié hier les résultats définitifs des élections sénatoriales qui avaient lieu la semaine dernière. Une élection très largement remportée par le parti présidentiel, le Mouvement patriotique du Salut, avec 43 sénateurs sur 46. Esdras Dikoumana, c'est toutefois 2 de moins que ce qu'annonçaient les résultats provisoires.
Oui, Nicolas, sans surprise, le MPS, le parti fondé par Idriss Déby Père il y a 35 ans, rafle la quasi-totalité des sièges, même s'il en a perdu deux au passage attribués à deux partis alliés, le RNDT, le réveil de l'ancien Premier ministre Albert Parimi Padake, et l'URD de Félix Nyalbé, après le recours devant le Conseil constitutionnel. Comme vous le disiez, le MPS obtient au final 43 sièges sur les 46 en jeu, le RNDT, le réveil deux sièges, et l'URD, un seul. Ce qui était le plus attendu pour certains avec beaucoup d'espoir, Nicolas, c'était la liste des 23 sénateurs que devait désigner Mahamat Idriss Déby, puisque la nouvelle constitution du Tchad lui donne la prérogative de nommer un tiers du Sénat. Si le maréchal président avait promis en janvier que, je cite, le MPS ne saurait gouverner seul, le groupe de sénateurs qu'il a nommé est très largement dominé par des personnalités issues de son parti, parmi lesquelles l'ancien président du CNT, Haroun Kabadi. Cette liste est complétée par quelques autres personnalités issues de partis alliés, tels que l'ancien ministre des Affaires étrangères de transition, Abdramane Koulamala, ou les candidats à la dernière présidentielle, Théophile Bongoro et Lady Beyassanda. Il s'agit de figures politiques qui ont accompagné la transition, souligne le sociologue tchadien Gondé Ladiba, qui regrette l'absence de tout opposant politique et même de membres de la société civile dans son choix.
Au Cameroun, le gouvernement met en garde les partis politiques qu'il accuse d'entretenir un climat de tension et de peur à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. Au cours d'une conférence de presse animée hier par Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, le ton a été particulièrement virulent, Polycarpe Samba.
Une conférence de presse sur un ton global de mise en garde, à l'endroit notamment des leaders politiques de l'opposition, engagés à la course à l'élection présidentielle de 2025.
À partir de ce jour, tout désordre, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi.
Sans jamais le citer, Paul Atanganji se sera particulièrement attardé sur le cas du leader du MRC Maurice Kamto, dont la candidature, à en croire le ministre, ne serait pas acquise après le boycott par le MRC des élections municipales et législatives de 2020.
On vous donne la possibilité d'aller à une élection. Et vous dites, moi je ne pars pas à l'élection. Et aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans le sommet et vous vous réveillez subitement pour parler des élections. De quelles élections? Ceux qui ne peuvent pas prendre part à cette élection présidentielle de 2025, ils vont attendre l'échéance de 2032, le ciel ne va pas tomber.
Paul Atanganji s'est également expliqué sur la compréhension qu'il a de son rôle en tant que tutelle des partis politiques et associations, alors que les critiques fusent sur ses méthodes et ses relations globalement tendues avec ses différents acteurs.
Le chef d'État dit que les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le MINAT, je prends donc les dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le calme et la sérénité. Et les hors la loi n'ont qu'à bien se tenir.
Un ton résolument à l'offensive qui ne manquera pas de faire réagir. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Il est 13h43 à Yaoundé.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'après-midi, les sports du football et la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. On suivra ce soir PSG-Liverpool avec un Mo Salah en très grande forme. Et puis après des mois de controverses, on sait enfin où va s'installer la maison des mondes africains voulue par Emmanuel Macron. Ce sera dans le 10e arrondissement de Paris. Les sports du football et la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions avec notamment ce soir PSG-Liverpool au Parc des Princes. Un match qui s'annonce spectaculaire entre deux des équipes les plus en forme d'Europe. Les Reds partent légèrement favoris, notamment parce qu'ils peuvent compter sur un Mohamed Salah très performant cette saison. Cédric de Oliveira.
Salah's looking through it on his own. Another special Mohamed Salah moment.
C'est le genre de situation que les supporters parisiens veulent éviter. Voir Mohamed Salah encore faire trembler les filets cette saison. Louis, qui sera au Parc des Princes pour voir le choc face aux Reds, n'est pas rassuré.
Ce gars-là, je crois qu'il en est à 30 buts, 20 passes décisives cette année. Il est juste énorme. Moi, vraiment, il me fait très très peur. Je pense qu'il peut nous mettre un doublé ou un triplé et nous calmer dès le match aller. Donc vraiment, il va falloir vraiment faire gaffe.
Pour être précis, Salah, c'est effectivement 30 buts, mais 22 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pour Patrick Julliard, consultant pour Radio Foot International, l'Égyptien n'a pas d'égal en ce moment.
C'est le plus régulier. C'était un buteur hors pair, mais il est aussi devenu passeur. dans l'intelligence, dans la mise au service du collectif, il a jamais été aussi fort.
Et Liverpool en profite, 2 défaites seulement cette saison pour son entraîneur Arne Slot. Salah est de la classe des plus grands.
Ni Messi ni Cristiano Ronaldo n'ont joué en Premier League. Ce sont deux joueurs incroyables, mais cela rend la comparaison difficile. Mo, lui, a réalisé une saison exceptionnelle à Liverpool et nous espérons qu'il pourra continuer à le faire longtemps.
Malgré sa saison fantastique, l'Égyptien pourrait voir son histoire s'arrêter bientôt avec les Reds. Son contrat prend fin en juin prochain et il n'a pas encore prolongé.
PSG Liverpool, coup d'envoi 20h TU, à suivre également Benfica FC Barcelone et Bayern Munich Bayer Leverkusen. Un peu plus tôt à 17h45 TU, le Feyenoord Rotterdam affrontera l'Inter Milan. Il est une icône du football sud-africain, joueur, entraîneur et récemment encore coach des attaquants de Manchester United. Benny McCarthy revient sur le continent africain. La fédération kényane a en effet révélé cette semaine avoir nommé l'homme de 37 ans au poste de sélectionneur de l'équipe nationale, Claire Bargelès.
Déjà en tant que joueur, Benny McCarthy pouvait se vanter d'une impressionnante carrière, étant passé par l'Ajax d'Amsterdam, Blackburn et également Porto avec qui il a remporté la Ligue des Champions. Une carrière poursuivie à partir de 2015 en tant qu'entraîneur pour des clubs belges et sud-africains, puis un poste d'adjoint aux côtés d'Eric Ten Hag à Manchester United. Et désormais, il obtient son premier contrat auprès d'une équipe nationale, avec pour ambition de remettre sur pied les Harambee Stars, eux qui ne se sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette année, après avoir été absents lors des 2 dernières. Le Kenya a un énorme potentiel, a-t-il affirmé, ayant en ligne de mire la CAN 2027, dont une partie se déroulera sur place. Mais avant cela, Benny McCarthy devra préparer son équipe pour de premiers rendez-vous ce mois-ci, contre la Gambie et le Gabon, dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial de 2026. Côté sud-africain, où il reste une légende du foot, nombre de supporters espèrent que ce nouveau poste le rapprochera un peu plus de son pays natal, puisque beaucoup rêvent de le voir un jour entraîner l'équipe des Bafana Bafana, dont il est le meilleur buteur de l'histoire. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Oui, Benny McCarthy avait inscrit 31 buts en 81 matchs sous le maillot sud-africain. Après des mois de controverses, on sait enfin où va s'installer la maison des mondes africains, qu'on appelle aussi Mansa. Ce sera dans le 10e arrondissement de Paris. Ce centre pluridisciplinaire a pour ambition d'être le QG permanent des cultures africaines en France. Projet voulu par Emmanuel Macron et initié par le penseur camerounais Achille Bembe. Mais les diverses autorités en charge du dossier se disputaient depuis des mois sur son lieu d'implantation. Olivier Roger.
Si l'art peut être réaliste, les querelles parisiennes sont souvent surréalistes. Il a fallu des mois de débats et de controverses pour enfin décider du lieu d'implantation de la Mansa, la Maison des Mondes Africains. Ce sera finalement un ancien atelier du 10e arrondissement qui commencera à accueillir ses premiers visiteurs dès juin. Pendant un temps, le ministère de la Culture souhaitait voir la maison s'installer sur les berges de la Seine, à la Monnaie de Paris, mais le vénérable établissement aurait dû partager un espace qu'il espérait rentabiliser pour boucler son budget, faute de fonds publics. Par ailleurs, la querelle avait pris un tour politique, les députés du Rassemblement National accusant le gouvernement de céder, je cite, « aux sirènes de la repentance vis-à-vis de l'Afrique ». Ajoutez à cela des difficultés budgétaires entre les 2 ministères de tutelle, affaires étrangères et culture, et vous obtenez au final un projet qui a mis plus de 3 ans à s'implanter. Sur le modèle de l'Institut du Monde Arabe, la Mansa se veut à la fois une vitrine, un refuge et un tremplin pour les artistes contemporains africains.
Il est 13h48 à Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce mercredi 5 mars.
L'Europe qui s'organise alors que les États-Unis se désengagent du soutien à l'Ukraine. L'Allemagne annonce des centaines de milliards d'euros de dépenses publiques dans le secteur de la défense. Et à Paris, Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir pour parler de ce conflit, avant de recevoir le Premier ministre hongrois qui ne cache pas sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. De nouvelles accusations contre Israël, elles viennent d'Afrique du Sud, qui avait saisi il y a quelques mois la Cour pénale internationale et déposé une plainte pour génocide. Le gouvernement sud-africain dénonce aujourd'hui l'utilisation de la famine comme arme de guerre à Gaza. Israël qui a mené de nouvelles frappes de drones au Liban, dans le sud du pays, et ce malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis novembre dernier. Les tirs ont fait 2 blessés. Et puis le discours de Donald Trump hier, le premier du président américain depuis son retour à la Maison-Blanche. Discours devant le Congrès. Nous y reviendrons dans 20 minutes environ avec notre correspondant à Washington. Le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo a annoncé lundi soir qu'il serait candidat à un second mandat lors de la présidentielle qu'il prévoit en novembre et qu'il entendait emporter dès le premier tour. Mais la date même de cette élection est sujet à contentieux puisque l'opposition estime que le mandat du président est terminé depuis la semaine dernière. Vincent Fouché, chercheur au CNRS et au laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux, est votre invité Nicolas Sûr.
Bonjour Vincent Fouché.
Bonjour.
Est-ce que l'opposition bissau-guinéenne a raison quand elle dit que le mandat du président Oumarou Sissoko Embalo s'est terminé le 27 février ?
Il y a une controverse, évidemment, constitutionnelle. L'opposition avait fait un recours contre l'élection, avait contesté les conditions d'élection. Et donc, le président considère que son mandat court à partir du moment où la Cour constitutionnelle, ça s'appelle le Tribunal suprême de justice en Guinée-Bissau, a rendu son verdict sur cette contestation. L'opposition dit que non, puisqu'il a exercé ses fonctions même pendant la période du recours. Au fond, le mandat court là.
Alors, selon la Cour suprême de Guinée-Bissau, le mandat de Oumarou Sissoko Embalo se termine le 4 septembre prochain, mais lui dit qu'il organisera des élections le 30 novembre, presque 3 mois plus tard. Pourquoi est-ce qu'il veut, selon vous, ce délai supplémentaire ?
Bon, la position du président Embalo, elle est compliquée, on le sait. Hein. Il s'est fâché avec le parti qui l'avait porté à sa élection précédente. Il est en train d'essayer de constituer une coalition en sa faveur, en allant grappiller un certain nombre d'acteurs de tous les principaux partis du pays. Mais il est très très incertain de son poids électoral. Et donc, dans cette configuration, on voit bien qu'il essaye de retarder le scrutin pour avoir le plus de temps pour se préparer. Le plus de temps pour constituer des alliances et renforcer sa coalition.
C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi sûr que ça de l'emporter dès le premier tour, comme il l'a dit en annonçant sa candidature.
En tout cas, dans une élection transparente et libre, ça pourrait être assez compliqué. Ouais. L'histoire électorale du pays peut lui donner des raisons de s'inquiéter.
Avec qui cherche-t-il à s'allier à l'heure actuelle ?
En fait, c'est très classique en Guinée-Bissau. Hein. On est vraiment dans un système où, dès qu'un homme politique s'impose, au fond, il va rassembler autour de lui des factions des principaux partis politiques qui vont entrer en lutte contre leur parti politique maison-mère hein, et tenter d'en prendre le contrôle. Et c'est exactement ça qui se passe. Donc, il a du côté du PSGC, il a passé une alliance avec Adia Sattou Camara. Il a passé des alliances du côté du PRS, du côté de APU. Enfin, vraiment, les principaux partis qui existent. Et puis, il a gardé quand même une partie du MADEM, hein, le parti qu'il avait soutenu lors de l'élection de 2019.
Et qui, parmi ses opposants, a une chance lors de la présidentielle qui s'annonce ?
Alors, on a deux principales coalitions. Hein, une coalition formée autour du PIGC, dont le candidat Domingo Simões Pereira a été président de l'Assemblée nationale dans la dernière mandature, interrompue hein, par la dissolution prononcée par le président Embalo, qui avait été candidat contre Embalo précédemment. Donc ça, c'est vraiment un poids lourd historique. Hein. Le PIGC, c'est le parti qui a mené le pays à l'indépendance, donc avec une légitimité, un appui, un réseau qui s'érode petit à petit, mais qui reste quand même très significatif. Et puis, de l'autre côté, on a une autre coalition, autour d'un ancien du PSGC d'ailleurs aussi, un homme d'affaires important qui s'appelle Brahima Camara, qui était précisément dans le parti en fait qui a soutenu Sissoko Embalo à l'élection précédente et qui donc a rompu avec lui depuis.
Dans ce contexte de tension, une délégation de la CDAO était à Bissau. Elle a préparé un projet d'accord sur la date des élections, mais elle a dû quitter précipitamment le pays car le président Embalo a menacé de l'expulsion. Pourquoi est-il aussi fermé à des discussions ?
Le président Embalo s'est expliqué hein, sur sa décision d'expulser ou de menacer d'expulsion la mission de la CDAO. Il a dit que c'était parce que cette mission avait procédé à des consultations qui n'étaient pas prévues dans la feuille de route. Mon impression, c'est plutôt que la mission de la CDAO était sur une ligne, disons, plutôt favorable à l'opposition, donc pour demander les élections plutôt vite plutôt que plus tard. Et c'est pour ça, semble-t-il, qu'il les a expulsés.
La semaine dernière, l'opposition avait appelé à la mobilisation et à la paralysie du pays face à un très important déploiement sécuritaire. Cette mobilisation n'a pas pris, mais les positions semblent toujours inconciliables. Selon vous, comment la situation peut-elle évoluer ?
C'est un des grands problèmes en Guinée-Bissau, c'est qu'au fond, l'opposition, elle n'a pas forcément des leviers importants dans le champ institutionnel. Hein. Les manifestations, c'est très difficile de mobiliser, la répression est assez forte. Du côté institutionnel, on a un Parlement qui est suspendu depuis la fin 2023. La Cour constitutionnelle, elle a été prise en main par le président. Donc on a vraiment comme ça une sorte de vide, de chemin de contestation. Ça va être très difficile pour l'opposition de faire pression. En même temps, le président Mbalo ne peut pas retarder indéfiniment l'élection. Donc au fond, tout va se jouer sur cette espèce de tension.
Et est-ce qu'on sait comment l'armée se positionne dans la polémique actuelle ?
Alors l'armée, depuis le coup d'État de 2012, qui avait entraîné des conséquences très très problématiques, aussi bien pour l'armée d'ailleurs que pour le pays, est assez prudente. Évidemment, l'armée fait en sorte que le président la ménage, mais elle se tient à distance de la vie politique. Et de son côté, le président a renforcé sa garde présidentielle. Et on a vu d'ailleurs, au fil de ces années, des bastonnades par des hommes en tenue militaire masquée, jamais vraiment identifiés. L'opposition affirme que c'est la garde présidentielle qui mène ces bastonnades, qui servent évidemment à calmer les opposants qui voudraient aller un petit peu trop loin. Donc, on ne voit pas trop l'armée rentrer dans le jeu. En tout cas, maintenant, il faudrait une crise institutionnelle plus forte encore pour sans doute la faire bouger.
Merci Vincent Fouché. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Depuis 10 ans, une mine mobile filtre le sable et exploite le zircon le long de la côte atlantique au nord de Dakar. Elle est exploitée par la société Grande Côte Opération, détenue à 90% par le français Eramet et à 10% par l'État du Sénégal. Mais depuis quelques mois, les maraîchers riverains de cette mine se plaignent de la perte de leurs ressources économiques et des compensations trop faibles pour laisser passer la mine. Reportage Léa-Lisa Westerhoff.
Au loin, une gigantesque pompe de l'entreprise minière recrache du sable. À 150 mètres, la terre du champ que nous traversons est sèche. Les aubergines et les oignons, un vieux souvenir. Maïmouna, qui exploitait cette parcelle d'un hectare, est dépitée.
J'avais un grand champ et je gagnais beaucoup d'argent. L'année passée, j'ai récolté beaucoup d'oignons, mais depuis que la mine de zircon est passée, le sable a recouvert la pompe solaire, ma motopompe est cassée et je n'ai plus d'eau.
En cause, selon cette agricultrice qui gagnait jusqu'à 3 millions de francs CFA par mois grâce à ses récoltes, l'arrivée de la mine mobile Eramet et de sa gigantesque drague qui filtre le sable sur 10 à 15 mètres de profondeur, pompant aussi l'eau sur son passage pour extraire le précieux zircon. À quelques kilomètres de là, au milieu des dernières dunes du désert du Lompoul, c'est un campement touristique qui est cerné. Ici, la mine mobile filtre le sable jour et nuit à moins de 200 mètres. L'écologe est la dernière infrastructure touristique depuis que la mine a commencé à exploiter la zone, il y a un an. Les 6 autres ont été indemnisés, mais Biran Baindiaï, co-gérant de l'écologe, résiste, car les enjeux économiques sont importants.
Le tourisme, c'est une activité transversale. Le vendeur de cacahuètes, le vendeur de légumes, le vendeur de viande, etc., etc. Tous ces gens qui gravitent et les employés, etc. Nous, on est une entreprise indépendante, on est une entreprise reconnue par l'État. C'est comme s'ils achetaient notre entreprise parce que l'entreprise va fermer après. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on soit dédommagé à notre juste valeur.
De son côté, le maire de Diokoul, l'une des localités par laquelle passe la mine, demande un moratoire et une enquête parlementaire. Car il en est convaincu, les gains économiques sont inférieurs aux dommages que provoque l'exploitation du zircon. Gora Gueye.
Même en termes de productivité économique par rapport au maraîchage, par rapport à l'arboriculture qui est développée dans la zone des Gaï, actuellement, je pense que la dégradation qui est en train d'être faite par cette mine-là ne peut pas compenser en termes économiques ce qui est en train d'être détruit. Et juste après le contraire, moi je pense que le Sénégal n'y gagne absolument rien.
Dans un rapport, le collectif de défense des Niaï, composé de membres de la société civile, a calculé que si on cumule les ressources reversées sur les 10 dernières années par l'entreprise minière, moins de 5 milliards de francs CFA sont reversés chaque année à l'État. L'entreprise minière Grande Côte Opération dément ces affirmations. Elle dit être le 5e contributeur minier au budget de l'État et veiller à l'indemnisation des personnes expropriées. Léa-Lisa Westerhoff, de retour de Lompoul, RFI.
Et c'est au Sénégal que se termine cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain Nicolas Sûr. Vous restez sur notre antenne, on se retrouve dans un tout petit peu plus d'une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur Internet. www.rfi.fr.
Priorité santé
Caroline Paré.
Demain, nous vous retrouvons au Sénégal, en Casamance, pour parler de la vaccination en milieu scolaire contre le papillomavirus. Et vendredi, toujours en Casamance, à l'hôpital régional de Ziguinchor, les enjeux liés à l'accès à l'oxygène médical, un médicament essentiel pour l'OMS.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Émission spéciale recherche d'emploi au féminin. Si vous êtes une jeune diplômée ou plus expérimentée, posez vos questions à nos spécialistes pour construire votre projet professionnel en tant que femme.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.